Tsugi Radio, destination bien-être, Jackie Thibault.
Bonjour et bienvenue dans Destination Bien-être sur Tsugi Radio Sud Vendée. Destination Bien-être, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Guif, thérapeute dans son cabinet Libre en Soi, à La Roche-sur-Yon. Bonjour Catherine.
Bonjour Jackie.
Bienvenue. Alors, j'ai plaisir à te recevoir aujourd'hui et tu vas pouvoir nous parler de tes différentes pratiques, mais aussi de tes différentes orientations, puisque tu es praticienne, thérapeute, mais aussi formatrice et aussi créatrice, parce que tu as plein de choses que tu as pu mettre en place autour de ta méthode, autour de la formation. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter, nous rappeler un petit peu ton parcours et peut-être pourquoi tu en es arrivé là en quelques minutes?
Oui, bien sûr. Donc à la base, je suis infirmière depuis une trentaine d'années maintenant. Et j'ai toujours été passionnée par la psychologie. Mais aussi, enfant, je pense que je rêvais de devenir enseignante. Et tout naturellement, au travers de mon expérience autour de la psychiatrie et autour de l'addictologie, c'est vraiment les deux pôles dans lesquels j'ai le plus longtemps exercé, je me suis sentie un petit peu à l'étroit dans ma blouse d'infirmière. J'avais envie d'aller plus loin. Et j'ai commencé à me former à des outils tels que l'hypnose, tels que le MDR, qu'on va appeler là l'HTSMA, puisque c'est l'outil, en tous les cas, que j'ai appris. Voilà, et j'ai ouvert un cabinet, je me suis réorientée, on va dire, en tant que psychopraticienne, et j'ai réouvert un cabinet, il y a 10 ans, à peu près. Et voilà.
Alors, j'imagine que pour en arriver là, tu as dû te former, tu as dû faire l'acquisition de différentes méthodes que sont le MDR ou l'hypnose pour arriver à cette méthode synthétique de l'HTSMA. Quelle a été ton école et ton parcours par rapport à cela ?
Oui, alors je viens d'une époque où on se formait pas en deux jours, où les formations étaient en présentiel. J'ai été formée par...
Excuse-moi, oui. je sens une pointe d'inquiétude dans cette, dans cette notion de se former en deux jours.
Ben, ça peut m'interpeller dans ce qui se passe aujourd'hui. Et l'explosion, en tous les cas, majeure des praticiens, avec parfois, j'en ai vu en souffrance, avec des manques et du coup de la souffrance pour accompagner les gens. Et c'est un métier, même si on n'est pas psychologue, même si on n'est pas psychiatre et on n'est pas médecin, mais faire vraiment accompagner les gens, ça demande un petit peu de temps et surtout de l'investissement et de l'engagement dans un apprentissage. Voilà pourquoi je parle de ça.
Excuse-moi, je t'ai interrompu.
Donc j'ai été formée par le centre Mimétis, qui est un centre qui a été créé par Éric Bardot, qui donc forme principalement les professionnels de santé à des outils donc tels que l'hypnose thérapeutique et l'HTSMA, mais bien d'autres. Et j'ai été aussi formée par l'AREPTA, qui est l'école ericksonienne de Nantes, pour tout ce qui va être thérapie brève, thérapie orientée solution et thérapie systémique.
Au sein d'une séance, tu vas associer le MDR et l'hypnose. Alors pour les novices, ou est-ce que tu peux, avec des mots simples, nous expliquer ce... Alors l'hypnose, tout le monde connaît l'hypnose, quoique on a encore des fois des préjugés ou des a priori sur l'hypnose. Est-ce que tu peux nous parler de l'EMDR et de l'hypnose au sein de tes séances ?
Alors en fait, quand j'accompagne une personne et que je vais utiliser cet outil-là, parce que ce n'est pas forcément systématique, c'est que je vais repérer par le biais déjà d'un questionnement et le fait de faire connaissance avec la personne que j'accompagne, des notions souvent d'excès émotionnel et aussi de psychotraumatisme. C'est vraiment tout ce qui est pathologie par rapport à la relation, les problématiques relationnelles. C'est souvent un outil que je peux utiliser dans ces problématiques-là. Donc excès émotionnel, ben, c'est tout simplement des excès de peur, de colère ou autre. Les problèmes émotionnels, eh bien, c'est le fait de sentir des problèmes en relation avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et puis les psychotraumas, eh bien, c'est ce qui nous construit, c'est ce qui nous fait agir. Malheureusement, c'est souvent assez méconnu et les gens pensent qu'ils sont comme ça. Et non, il y a vraiment des possibilités de, quand on ne se sent pas vraiment bien avec qui on est, ce qu'on fait ou comment on vit les choses, il y a vraiment des solutions. Et l'HTSMA en fait partie en tous les cas.
Donc on peut ouvrir la valise et aussi détricoter les chevaux grâce à ta méthode et à ton accompagnement.
Ouais, ta métaphore est vraiment, elle vient vraiment pointer exactement. C'est on tisse, en fait, on tisse quelque chose de différent et souvent on vient transformer le système de pensée puisque c'est le système de pensée qui crée les émotions et sans émotions négatives, il n'y a plus de problème en fait.
Est-ce que le corps est un outil majeur là, dans ta méthode? Est-ce qu'il est un outil de réponse? Est-ce qu'il est un outil qui permet d'aller justement vers ce détricotage et vers cette nouvelle pelote de laine?
Oui, ta question est vraiment pertinente puisque c'est vraiment ça. On utilise les ressentis au niveau corporel pour pouvoir... je vais utiliser un peu des mots, les externaliser hein, et pouvoir agir dessus. Plus on prend du recul, je pense qu'on a tous expérimenté ça, plus on prend du recul sur quelque chose, plus il est facile de le voir et savoir vers où on peut aller et comment on peut modifier le lien avec son problème.
Donc ça veut dire que tu utilises d'une part la verbalisation par la récolte du propos, de l'ancrage ou du blocage que rencontre la personne et plus la mise en musique de ta méthode de façon à pouvoir aller vers une libération émotionnelle et qui peut des fois être inconsciente. Il n'y a pas forcément des mots qui sont posés sur ce qui vient de se passer ou sur la transformation. Ou est-ce qu'il y a toujours... est-ce que l'inconscient peut amener vers cette transformation sans nécessairement une explication?
Bien sûr, on travaille... moi, j'ai l'impression, en tous les cas, avec les consultants, qu'on travaille sur différents niveaux, et tu l'as cité, l'inconscient, le conscient, on travaille sur les deux. Et très très souvent, il y a des résolutions, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, et c'est là où c'est juste, effectivement, on vient chercher ce qui se passe dans l'inconscient, on vient aussi travailler la croyance de la personne par rapport à elle-même, hein, parce que souvent dans un trauma, elle a une croyance très négative par rapport à elle-même. Et c'est en venant travailler cette croyance aussi qu'on va pouvoir libérer l'émotion liée au psychotrauma, qui n'est pas forcément les états de stress post-traumatique. Parce que souvent, il y a un petit peu confusion entre les deux. Un psychotrauma, on en a tous vécu. On ne souffre pas tous d'états de stress post-traumatique, même si c'est bien plus courant qu'on l'imagine.
Et c'est bien plus courant et on n'en parle pas nécessairement. Et la résurgence peut être des années après. Et là, effectivement, oui, c'est un peu plus compliqué.
Oui, jusqu'à aller créer parfois des troubles de la personnalité graves qui vont être encore beaucoup plus complexes à
traiter.
Oui,
oui. Est-ce qu'une de tes séances s'adresse à des jeunes populations, des jeunes enfants, ou est-ce qu'il y a une préconisation? Est-ce qu'il y a combien de séances pour pouvoir résoudre une problématique quelle qu'elle soit?
Alors, en ce qui concerne les enfants, pour ma part, hein, là je vais vraiment parler que de ma pratique, moi je travaille très très peu avec les enfants, je commence à travailler avec les ados, on va être dans l'ordre de 14-15 ans, parce qu'il faut pouvoir quand même élaborer quelque chose, élaborer ce qu'on ressent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec les enfants, mais les personnes formées au système de pensée des enfants, bien sûr, pourront travailler avec eux. En ce qui me concerne, je vais être sur plutôt 4-5 séances pour venir travailler un objectif de thérapie. Mais encore une fois, l'HTSMA, ça peut être parfois beaucoup de temps en amont pour savoir ce qu'on va venir travailler précisément. Et la séance va être à elle seule suffisante. Ou parfois, il va nous falloir plusieurs séances pour travailler différentes croyances, notamment quand on rentre dans des problématiques, par exemple, je pense aux violences sexuelles, hein, qui sont souvent un petit peu plus longues à traiter, tant la culpabilité est grande. Mais en moyenne, ça fait partie des thérapies brèves. Donc les thérapies brèves, on est moyenne 5-6 séances, 10 max. ce qui va être voilà, différent des thérapies plus longues.
Alors, j'aime bien le terme thérapie bref, parce que bah, on est dans une société où tout va très vite, on aime que les choses aillent vite, et puis surtout ça, ça peut-être ça enlève de la lourdeur à ce qu'on peut penser être une thérapie, où souvent dans l'esprit des gens ça peut être un accompagnement sur une longue durée avec, avec des mots à poser, à déposer, et là en fait on va faire confiance entre guillemets au, au schéma de la vie ou à notre corps pour, et à notre inconscient pour aller libérer les choses. Donc ça, j'aime bien ce ce mot thérapie brève, donc, et se dire qu'on peut aller résoudre une problématique, un ancrage quel qu'il soit, assez facilement, entre guillemets, et assez rapidement, si tant est qu'on en ait le, l'envie et le désir.
Oui.
Mais j'imagine qu'on ne vient pas par hasard ou par force chez Catherine dans le cabinet libre à soi.
Non.
Libre en soi, pardon.
Oui, oui, et puis en plus, le consultant, là, il est vraiment au cœur. Hein. Il est obligé de travailler. Il est obligé d'être engagé. Sinon, ce n'est pas possible. C'est vraiment... la posture que j'ai par rapport aux personnes, c'est on est ensemble. On fait un petit bout de chemin ensemble et on est côte à côte. Hein. Il est... vraiment, on est responsable. Le client doit assumer sa responsabilité de son problème. C'est la garantie pour qu'il puisse repartir autonome.
Donc, vous formez un duo pour le meilleur, pour aller vers le meilleur.
C'est ça.
Vers la meilleure version de soi-même, entre guillemets.
Voilà.
Une séance, la durée d'une séance, Catherine ?
Une heure. Oh, ça arrive des fois de déborder un petit peu, ou que ça soit peut-être même un petit peu moins long, parce que quand on a fini une séance d'HTSMA, y a un moment donné, il faut vraiment s'arrêter et il ne faut plus discuter, puisque on a créé ce nouveau tissage, comme je te disais tout à l'heure, et qu'il est important de laisser les choses agir.
Déposer et agir.
Et voilà, et après ça infuse.
Et alors, si une autre séance est programmée, l'espacement, en règle générale, c'est quoi ?
Alors, quand on est au cœur du travail, 15 jours est souhaitable, bien sûr, mais il faut quand même toujours tenir compte aussi de chaque personne, des personnes pour qui c'est possible. On ne peut pas nier l'impact aussi financier que ça peut représenter pour une personne. 15 jours, 3 semaines, et puis parfois, les dernières séances, on les distancie un petit peu parce que c'est un point d'ancrage pour venir vérifier que ça reste bien dans le temps, puisque c'est la peur de quasiment toutes les personnes qui viennent consulter, c'est que la problématique revienne, ce qui ne se produit pas en fait.
Oui, une fois que le problématique a été déposée, on peut estimer qu'elle est déjà réglée.
Oui, alors particulièrement en HTSMA, oui, vraiment. Parce que soit il peut y avoir un autre trauma qui peut venir réveiller, et là auquel cas, bon, ça, on peut retravailler bien sûr. Mais la plupart du temps, non, ça ne revient pas, puisque ça serait, comme je dis toujours, on ne peut pas désapprendre quelque chose. Une fois qu'on l'a appris, on l'a appris. C'est impossible de désapprendre.
Et alors, dans ta pratique ou dans tes différentes fonctions, tu viens de lancer un programme de formation que tu as conçu, je crois, que tu as écrit, que tu as organisé. Est-ce que tu peux nous parler de ce programme de formation ? Pourquoi tu as mis aussi ce programme de formation en place et comment tu le diffuses ?
Oui, alors ce programme de formation, il s'intitule tout simplement « Devenir praticien en relation d'aide ». Alors, je suis partie de deux constats. Les personnes que j'observais autour de moi, qui avaient parfois des pratiques telles que énergéticiens, kinésios, réflexologues, mais qui parfois manquaient de connaissances par rapport à la psychologie humaine, aux psychopathologies, mais aussi qui parfois manquaient d'outils, au moins dans le fait d'amener la personne à exprimer une demande vraiment implicite. Je suis partie aussi de mon expérience où, quand j'étais, malgré toutes mes années d'infirmière, pourtant déjà en relation d'aide, lorsque j'étais formée à l'hypnose, au départ, je me sentais vraiment perdue. J'avais une personne devant moi et elle attendait quelque chose de moi et quelque chose d'important, puisqu'elle venait chercher de l'aide et parfois je ne savais pas quel chemin emprunter. À l'issue de tout ça, je me suis dit, je pense que les gens n'ont pas spécialement besoin d'être formés à une technique, mais ils ont besoin d'être formés à ce que les gens attendent de nous. Les personnes viennent avec un problème, on se doit d'être outillés pour les aider. Alors cette formation, elle va regrouper différents outils que je vais venir piocher dans les thérapies stratégiques, dans les thérapies systémique, dans l'hypnose, aussi dans la HTSMA, afin de répondre aux demandes qui sont le plus rencontrées dans un cabinet. Ensuite, il faut aider les personnes à s'installer, à avoir les aspects juridiques et légaux, qui me semblent, parce que même si c'est un métier aujourd'hui qui n'est pas réglementé, avoir une éthique de travail me semble vraiment indispensable. Et on vient travailler aussi cette fameuse légitimité qui vient bloquer beaucoup de praticiens et qui les empêche parfois d'avoir des clients parce qu'ils ne se sentent pas toujours légitimes, hein, ce fameux syndrome de l'imposteur. Je viens faire de la prévention du burn-out parce que ça aussi, on en parle peu. Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu un burn-out il y a quelques temps et je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps finalement à aider les autres, mais je me suis un petit peu ignorée pendant ce moment-là et je l'ai payé un peu le prix fort. Alors, voilà, donc tout ça crée cette formation et excuse-moi, je...
Alors, c'est peut-être pas, je t'écoutais, c'est peut-être pas dans la quantité de temps, c'est plutôt peut-être la capacité à mettre de la distance par rapport à la problématique, par rapport à l'accompagnement, c'est surtout ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu des fois rencontrer. Puis aussi, il y a une notion des fois de pouvoir. Alors, ce pouvoir-là, sans que ce soit péjoratif, mais souvent un praticien peut avoir une notion d'être là dans l'aide et une forme de pouvoir. Il faut vraiment laisser abandonner ça. Et c'est là aussi qu'il y a un travail à faire de façon, enfin j'imagine, de façon à ce que les séances et que la pratique soient les plus efficientes possibles.
Oui, tu pointes, je crois, la chose la plus essentielle, c'est la posture. La posture du praticien, pouvoir effectivement travailler son propre ego. Cette prise de distance pour avoir une posture décentrée et laisser vraiment la place au consultant, lui laisser vraiment la place de l'emmener à trouver ses propres solutions par rapport à sa propre carte du monde. Et effectivement, c'est tout ça qui me semble tellement important, beaucoup plus presque que les outils ou les connaissances en elles-mêmes.
Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ça également. Eh bien, c'est une belle pratique dont tu viens de nous parler, puis également cet engagement dans cette formation. Comment est-ce qu'on peut te rencontrer, Catherine, dans ton cabinet Libre en Soi, ou comment est-ce que c'est du présentiel, est-ce que ça peut être en visio, est-ce que tu peux nous dire comment on peut aller à ta rencontre?
Oui, sur Internet, sur www.libreensoi.fr. Mon cabinet se trouve à La Roche. Je pratique aussi en ligne, puisque ça permet de dépasser un petit peu les frontières de notre beau département.
Tu peux pratiquer en ligne sur le MDR et l'hypnose ?
Oui, alors bien sûr, on adapte un petit peu. C'est un petit peu différent par rapport au cabinet. On adapte un petit peu la méthode. Mais oui, bien sûr, on peut travailler en visio. Ça semble assez incroyable. Même moi, j'y croyais pas trop au départ, mais si, effectivement.
Ça fonctionne.
Oui. Oui, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est la relation entre le thérapeute et la personne qui l'accompagne. Il y a vraiment que... C'est encore une fois, je crois que c'est la chose la plus importante. À partir de là, on peut tout construire ensemble, en fait.
C'est effectivement là aussi où il peut y avoir un manque, c'est cette espèce d'état de présence à l'instant donné, quand on est dans l'accompagnement, c'est d'être présent à l'autre, tout simple. En fait, la recette miracle, elle est juste là, c'est la présence à l'autre sur un temps donné d'une séance ou autre.
Hein, c'est ça. L'HTSMA se définit comme une thérapie du lien, d'ailleurs, puisque on part du principe que la personne est responsable de son problème, en fait, du lien qu'elle a avec son problème, que ça soit une personne, que ça soit une problématique. À partir de là, on peut travailler beaucoup de choses. Et puis, en ce qui concerne la formation, j'ai mis une page avec un formulaire de contact sur mon site internet et sur Facebook, qu'on peut retrouver sous le nom des Magnétocytos, qui est un duo que j'occupe avec mon mari, qui est lui plus responsable de la partie énergétique, parce que ça, c'est pas mon domaine.
Chacun son rôle.
Exactement.
En tout cas, on ne manquera pas de partager les différents contacts, le site, un numéro de téléphone et comment est-ce qu'on peut aller à ta rencontre. En tout cas, moi, je vais te remercier d'avoir accepté mon invitation et puis d'avoir parler avec autant de conscience dans l'accompagnement et avec des choses simples et qui donnent forcément à nos auditeurs qui auraient envie d'aller à la rencontre pour dépasser un blocage quel qu'il soit, d'aller te rencontrer. Donc écoute Catherine, merci de ta participation.
Merci à toi, Jackie, de m'avoir invité. C'est une belle rencontre et je suis vraiment heureuse d'être présente là aujourd'hui.
Bien, bah écoutez, moi, il me reste à vous souhaiter une très, très belle journée. On n'a pas, je crois qu'on n'a pas regardé avec Nicolas, mais peut-être qu'on était aux 2 ans d'anniversaire. Donc, c'était d'autant plus sympathique d'avoir une séance. En tout cas, ce podcast, cet enregistrement de podcast avec une belle technique. Je vous dis à dans 15 jours, je vous souhaite une très belle journée avec le soleil de retour et je vous dis à tout bientôt.
Toute la journée, vous écoutez Digradio sur digradio.fr.